Chapitre 7. Tony laissa sa voiture à Mercer. Agatha et elle passèrent à la bibliothèque consulter les articles qui concernaient Matilda Fraser. Son avocat avait plaidé sa cause avec éloquence, affirmant que Tim la maltraitait et l'avait forcé à consentir à la culture du cannabis. Quand la police avait perquisitionné chez eux, il avait disparu et sa femme avait prétendu qu'on avait dû l'avertir. Il était toujours recherché. Carsley commence à me rappeler Londres, pensa Agatha. Les gens ne connaissent plus aussi bien leurs voisins que dans le temps. Mathilda habitait dans les anciens logements sociaux à la limite du village, que l'on désignait encore comme la cité, quoique la plupart des pavillons aient été vendus. Le sien se trouvait au fond d'une impasse, et à la différence des autres, qui étaient presque tous mitoyens, il était isolé. C'était une créature tout en os, aux cheveux teints en roux vifs, qui devait fréquenter assidûment le salon de bronzage à en juger par sa peau d'un brun orangé malsain. Elle avait une bouche tombante, aux lèvres minces, et ses paupières masquaient en partie ses yeux pâles. « Pas besoin de votre carte, je sais qui vous êtes, » leur dit-elle. « Qu'est-ce que vous voulez ?»« Votre aide, » répondit Agatha. « J'enquête sur le meurtre de George Marston. »« Ah, c'est ça. Entrez. »
La salle de séjour était envahie par un gigantesque écran plat de télévision devant lequel était avachi un jeune homme au crâne rasé.
« C'est mon fils, Wayne. Dégage, Wayne !»
Wayne sortit en traînant les pieds, Mathilda éteignit la télévision et le enjoignit de s'asseoir. Agatha se jucha avec précaution sur le bord d'un canapé de velours marron constellé de taches, Tony à côté d'elle.
« Qu'est-ce que vous voulez savoir ?» questionna Mathilda en avalant les mots.
« Je me demandais si jamais George vous avait dit craindre quelqu'un en particulier. »«
Non, mais on a bien rigolé tous les deux, toujours prêt à blaguer et à rire qu'il était mon petit George. »
Le regard d'Agatha se durcit. « Votre George, vous étiez très proche ?»«
Non, pas elle tout de même, » pria-t-elle intérieurement. « Cette mégère édentée !»«
Oh, un gros câlin de temps en temps, » répondit Mathilda avec satisfaction.
« Mais les hommes, c'est comme ça. » J'ai passé ma vie à essayer de les tenir à distance.
Il y a vraiment de quoi avoir le moral dans les chaussettes, songea Agatha. Quand je pense à tout le mal que je me suis donné et à tout l'argent que j'ai englouti dans l'espoir de le séduire.
Je crois qu'il avait la phobie des serpents. Ne vous en a-t-il jamais parlé?
Il m'a jamais rien dit. J'ai trouvé une de ces saloperies dans mon jardin la semaine dernière. Je lui ai coupé la tête avec ma pelle. Sale truc rampant.
Vous l'avez signalé à la police?
Non, les poulets, j'en ai ma claque. Et puis un jardin, c'est toujours plein de sales bêtes. Vous voulez le voir?
Juste un coup d'œil.
Visiblement négligé depuis la mort de Georges, le jardin était assoiffé. Les fleurs baissaient lamentablement la tête, accablées par la chaleur encore écrasante.
C'est bizarre, remarqua Tony.
Qu'est-ce qui est bizarre? Demanda Mathilda.
Cette rocaille au milieu de la pelouse, elle gâche l'aspect du jardin et la moitié des plantes sont mortes.
« Vous avez assez fourré votre nez partout !» répliqua grossièrement Mathilda. « Allez-vous-en, j'ai autre chose à faire !»
Lorsqu'elles remontèrent en voiture, Tony vibrait tant d'excitation qu'Agatha en fut intriguée.
« Cette rocaille est plus que louche » déclara-t-elle à Agatha qui l'interrogeait. « George Marston, de la vie générale, était un jardinier hors pair. Il n'aurait jamais laissé construire une pareille horreur !»«
D'accord, Mathilda a un goût détestable, et alors ?»«
On n'a jamais retrouvé Tim Fraser !» Une fois débarrassée de lui, Mathilda pouvait se faire passer pour une femme battue et plaider qu'elle n'avait aucune responsabilité dans la plantation de cannabis.
Très ingénieux, mais comment allez-vous le prouver?
Elle a très mal pris ma remarque sur la rocaille. Si jamais Tim est enterré dessous, elle va vouloir le déplacer. J'y planquerai cette nuit.
Agatha était lasse et déprimée. Mais s'il y avait la moindre chance que Tony ait raison, elle n'entendait pas se laisser voler la vedette par sa belle acolyte.
Faisons le tour par l'arrière. J'ai remarqué que le jardin jouxtait un champ. On pourrait y faire le guet.
Tony réprima un soupir. C'était son idée à elle, qui ne mènerait peut-être nulle part. Mais si jamais il en résultait quelque chose, elle ne tenait pas à voir Agatha s'en octroyer tout le mérite. Comme elle s'installait, le soir, à la lisière du champ limitrophe de l'arrière du jardin de Mathilda, Agatha se surprit à penser au dispositif d'écoute de Simon. C'était terriblement tentant. Mais elle se résolut fermement à ne pas y recourir. C'était illégal et heureusement, sans quoi chacun pourrait espionner son prochain. L'atmosphère était lourde et moite. Agatha, qui s'était équipée de hautes bottes pour se protéger d'éventuelles vipères rôdeuses, étouffait. Elle regarda Tony, assise dans l'herbe au bord du pré, et se sentit fatiguée de rester debout.
« Vous n'avez pas peur d'être mordue ?» chuchota-t-elle avec irritation.
« Par des vipères ? Non, pas en pleine nuit. D'ailleurs, debout comme ça, vous vous détachez clairement sur la lune derrière vous. »
Agatha s'assit précipitamment.
« Où est donc passé Charles ces derniers temps ?» chuchota Tony.
« Je ne sais pas, je n'ai pas essayé de lui téléphoner. Vous connaissez Charles, il va et vient comme ça lui chante.
Et James ?
En voyage quelque part.
Chut ! Tony serra le bras d'Agatha. On vient d'allumer dans la cuisine, à l'arrière de la maison. Essayons de nous rapprocher.
Nous sommes assez près pour entendre si l'on creuse, murmura Agatha.
Dans ce silence, si nous faisons le moindre mouvement, c'est elle qui nous entendra.
Une voix masculine résonna.
Quoi ? Faut déménager tout ce foutu bazar ?
Ça doit être Wayne, le fils,
souffla Tony. Elles l'entendirent manier l'appel, puis demander.
« Ça y est, j'ai déjà rempli une brouette. Où est-ce qu'on va mettre tout ça ?»«
Mets-la dans le champ par la grille au bout du jardin.
Le fermier va s'en apercevoir. Il cultive pas ce champ, verra rien. »«
Filons vite, » ordonna Agatha. « Je vais prévenir Bill. »
Dès qu'elle fut rentrée au cottage, Agatha composa le numéro de portable de Bill, faisant des vœux pour qu'il réponde avant que sa mère n'ait fait irruption dans sa chambre et ne se soit emparée du téléphone à sa place. Dès que sa voix somnolente se fit entendre, Agatha se lança dans son récit d'une voix pressante.
« Nous n'avons pas de mandat de perquisition, répondit-il, et nous ne pourrons pas en obtenir avant demain.
Inutile de dire la vérité. Dites que nous pensons que Tim Fraser est là-bas, mais ne parlez pas de la rocaille, sinon... « Ils ne se dérangeront pas. Il est recherché par la police, donc vous n'avez pas besoin d'un mandat. »«
Je vais voir ce que je peux faire, » promit Bill en raccrochant.
« Allons attendre devant le lotissement, » décida Agatha. « Et quand les policiers arriveront, nous les suivrons jusqu'à la maison. »
Agatha craignit que la police ne se déplace pas jusqu'au moment où elle aperçut au sommet de la colline qui surplombait Carsley le premier gyrophare bleu.
« La cavalerie arrive toujours à temps, » remarqua-t-elle. « Croisez les doigts. » Pourvu qu'on ne trouve pas un autre cadavre. Sinon, le village sera envahi de journalistes du monde entier.
Trois voitures de police les dépassèrent. Agatha les suivit. L'avant-garde alla sonner tandis que quatre autres policiers contournaient la maison. Puis, l'un des hommes, muni d'un bélier, enfonça la porte. Une voiture banalisée, dont sortirent Bill et un Wilkes hirsute et d'humeur peu amène, s'arrêta devant Agatha et Tony, postés en face de la maison.
J'espère pour vous que vous ne nous avez pas menés en bateau!
Fulmina le second avec un regard noir à l'adresse d'Agatha avant de pénétrer dans le pavillon de Mathilda. Elles entendirent des cris, puis Mathilda qui hurlait, et enfin un long silence. Des voisins commencèrent à surgir de leur maison. On tendit un cordon autour du pavillon pour l'isoler, et on pria sèchement Agatha et Tony de s'écarter. Les experts criminalistes débarquèrent avec un photographe.
« Pas de médecin légiste ?» nota Tony.
Agatha sentait ses chevilles enflées dans ses bottes et elle regretta de ne pas les avoir troquées pour des sandales. Elle commençait à envisager un repli sur sa voiture lorsque Wilkes et Bill parurent sur le seuil, suivis de trois policiers escortant trois personnes menottées. Wayne, Mathilda et un homme grand et maigre.
« Papa, dis-leur qu'on n'a rien fait !» implora Wayne.
« Ce doit être Tim, le fameux disparu. Zut et rezut !» grogna Agatha.
« Attendez un peu. » dit Tony. La police a sûrement découvert quelque chose, sinon elle ne les arrêterait pas tous les trois.
Agatha plongea sous le ruban et s'approcha de Wilkes.
Qu'est-ce que vous avez trouvé ? Suivez-nous à Mercester. Il faudra que vous fassiez une déposition,
répondit-il sèchement.
Mais veuillez faire ce que l'on vous dit pour une fois, Mrs. Raisin. Et maintenant, si vous voulez bien, j'aimerais regagner ma voiture.
D'autres policiers apparurent, chargés d'une grosse boîte en métal. Agatha rejoignit sa jeune collègue.
Allons-y, Tony. Nous devons passer au commissariat.
J'en ai par-dessus la tête d'être cuisinée comme ça, rumina Agatha en attendant Tony au commissariat.
Elle n'avait pas pu s'attribuer l'intuition que quelque chose était dissimulé dans la rocaille, bien que l'envie ne lui en manquât pas, car elle savait que Tony subissait un interrogatoire de son côté. Sortant un petit miroir de son sac, elle examina son visage, plus une trace de maquillage. La chaleur avait dû le faire fondre. Tony, toujours aussi jeune, fraîche et ravissante, arriva enfin.
Vous ont-ils donné des informations ?
S'enquit Agatha.
« Pas vraiment. En tout cas, pas sur ce qu'ils ont trouvé. L'inspecteur Briggs a conclu en disant « Dieu merci, voilà ces meurtres élucidés. » Je lui ai demandé si c'était les Fraser qui les avaient commis, à son avis, et il s'est refermé comme une huître. Il me redemandait sans cesse ce qui m'avait alerté dans la rocaille à tel point que je me sentais coupable à la longue. Je grille de curiosité, déclara Agatha. Je file tout droit chez Bill. Je m'embusque devant son immeuble jusqu'à son retour et j'exige des explications. Vous pouvez rentrer chez vous.
Pas question. C'est de mon idée que tout est parti, rappelez-vous,
s'insurgea Tony.
Soit, si vous y tenez, concéda Agatha sans amabilité excessive.
En arrivant le lendemain matin, Bill reconnut la voiture d'Agatha. Tony et elle s'étaient assoupis et il fut tenté de rentrer chez lui discrètement, mais il savait parfaitement qu'Agatha irait tambouriner à la porte sitôt réveillée, quitte à terroriser sa mère. Il frappa à la vitre. Agatha ouvrit l'œil sur le champ et baissa la glace.
« Qu'est-ce qui s'est passé ?»«
Je ne devrais rien vous dire et je ne tiens pas à vous faire entrer à la maison. Allons prendre un café, il y a une cafétéria sur la rocade. »«
Je vois laquelle. Debout, Tony !»
Lorsqu'ils furent assis devant leur café, Bill demanda à Agatha.
« Vous êtes sûr que c'est bien le moment? Vous êtes livide ?»
Agatha porta les mains à son visage en un geste étrangement enfantin qui fit dire vivement à Tony.
« Elle va bien, allez-y !»
Pas de cadavre sous la rocaille, mais une grande boîte en métal bourrée d'argent. Mathilda avait prétendu que son mari s'était évaporé avec les recettes de leur trafic de cannabis, mais il était là. Et puis tout au fond, il y avait plusieurs manuels sur les mœurs des vipères et leurs maniements.
« Et qu'en disent les Fraser ?»
Mathilda reconnaît avoir caché l'argent quand son mari s'est enfui en Écosse, mais elle, Tim et Wayne, jurent tous les trois leur grand Dieu qu'ils ignorent tout des livres et que quelqu'un d'autre a dû les mettre là pendant leur absence. Mathilda et Wayne sont récemment allés en Écosse pour voir Tim, qui se cachait à Glasgow, et lui dire qu'il pouvait se risquer à revenir quelque temps chez lui s'il faisait attention à ne pas se montrer.
« Une minute, » intervint Tony. « Où sont passés les deux autres enfants ?»
Les plus jeunes sont placés. Ils ont été confiés aux services sociaux quand Mathilda a été jugée et elle n'a pas cherché à les récupérer par la suite. Nous avons interrogé Mathilda, Tim et Wayne, tous les trois séparément. Mathilda affirme avoir trouvé la moitié des plantes de la rocaille morte ou moribonde à son retour d'Écosse. Elle a imputé cela à la chaleur. Selon elle, c'est une tierce personne qui a dû creuser dessous, découvrir la boîte et y glisser les livres avant de reconstruire la rocaille. Mais il y a autre chose. Nous l'avions appris à sa première arrestation en faisant des recherches sur eux. Avant leur mariage, Tim a été d'emploi en emploi, et il a notamment travaillé dans un élevage de serpents, à Southend. Agatha se prit la tête à deux mains.
« Je n'y comprends rien. Pourquoi tu es George ?»«
C'était son jardinier. Il a pu tomber sur le poteau rose en s'occupant des plantes. Ils avaient peut-être enterré la boîte là avant de penser à la rocaille. »«
Mais Fiona Morton et le serpent qu'on m'envoyait ?» Et la vipère glissée dans le dos de Simon.
Il craignait peut-être que George n'ait parlé de la boîte en métal à Fiona.
Et Simon ?
Une coïncidence. Il a dû se coucher sur une vipère en s'endormant.
Non, non. Je ne peux pas y croire. À mon sens, les Fraser ne sont que du menu fretin. Les deux assassinats étaient machiavéliques, bien plus dans le style des crimes passionnels. Je ne vois absolument pas les Fraser trempés là-dedans. Et Jessica Fordyce ? Où était-elle quand on s'est attaqué à Simon ?
Elle a regagné Londres plus tôt dans la soirée. Écoutez, Agatha, l'affaire est close. Wilkes fait une déclaration à la presse ce matin. Et maintenant, je voudrais bien aller dormir.
Vous croyez que ce sont les Fraser qui ont commis ces meurtres ? Demanda Agatha à Tony quand elles eurent ramené Bill chez lui.
Cela me paraît peu vraisemblable. Je pense que Wilkes va trop vite en besogne. Un avocat de la défense démolirait sans peine toute son argumentation. À moins qu'on ne relève leurs empreintes sur les manuels d'herpétologie. Pour tout le reste, ça ne reposera que sur des hypothèses.
Mais cela permet au procureur d'élaborer un acte d'accusation. Tim Fraser a travaillé, même si ça n'a pas duré, dans un élevage de serpents. Les livres étaient cachés dans leur jardin avec les profits de leur culture clandestine. À mon avis, s'ils avaient voulu se débarrasser de George, ils l'auraient liquidé au marteau. Je ne les crois vraiment pas capables d'ourdir un plan aussi compliqué pour le tuer.
À votre avis, est-ce que Janet, la sœur de George, va considérer que l'affaire est résolue ?
Mais Wilkes avait déjà appelé Janet Hilston et lui avait annoncé l'arrestation. Elle écouta Agatha exposer ses doutes avant de répliquer sans embâche que la police avait, à ses yeux, d'ores et déjà résolu l'affaire et qu'elle résiliait leur contrat.
C'est fichu, conclut Agatha sombrement. Nous ne pouvons pas nous permettre de travailler gratuitement en pleine récession. Attelons-nous donc à quelques-unes de nos autres affaires.
Le soir, Agatha suivit l'émission de télévision où l'on avait invité Wilkes. Elle avait espéré qu'il dirait simplement que la police avait placé trois personnes en garde à vue à des fins d'enquête. Mais Wilkes déclara nettement que Timothy Fraser, son épouse Mathilda et leur fils Wayne étaient inculpés de meurtre. La sonnette tinta. Agatha trouva Charles sur le pas de la porte.
« Entre, » le convia-t-elle d'une voix morose.
« Qu'est-ce qui ne va pas ?
Je m'étais figuré que tu te réjouirais que tout soit terminé.
Sers-toi à boire, assieds-toi, je vais te raconter.
Il me semble que tu fais fausse route, Agatha, commenta Charles, après l'avoir attentivement écouté jusqu'au bout. Postuler qu'un mystérieux assassin aurait enterré les manuels sur les serpents dans leurs planques pour faire porter les soupçons sur eux, c'est un peu trop tiré par les cheveux. Comment aurait-il pu prévoir que la police irait chercher là ?
Ce pouvait être une sorte d'assurance, s'entêta Agatha. Il comptait peut-être passer un appel anonyme pour égarer les enquêteurs, au cas où ils se rapprocheraient trop de lui. Et la vipère qu'on m'envoyait ? Je n'avais pourtant jamais eu le moindre contact avec les Fraser.
Mais tout le village était au courant que tu étais sur l'affaire. Les Fraser ont pu souhaiter se débarrasser de toi.
Oui, bon. Et toi, que fricotais-tu ces derniers jours ?
Je songe à me marier.
Toi ? Avec qui ?
Pulcheria Harvey Booth.
Qui est-ce ? Demanda Agatha avec jalousie.
Une héritière, jeune et jolie. Si elle dit oui, je considérerais que j'ai beaucoup de chance.
Tu as une photo ? Charles tira un cliché de son portefeuille.
Admets que Chérie est très séduisante.
Tu l'appelles Chérie ?
Oui, Pulcheria, c'est un nom impossible.
C'était une grande jeune fille élancée, aux longs cheveux bruns, avec un long visage, un long nez et une petite bouche.
Et qu'en dit Gustave ?
Gustave était le valet de pied et majordome de Charles.
Gustave juge cela très opportun.
Au moins, tu ne débarqueras plus chez moi à l'improviste.
Je te manquerai ?
S'enquit Charles en souriant. Atrocement, pensa Agatha qui se sentait abandonnée.
Oh, je m'y habituerai, répliqua-t-elle d'un air dégagé. À propos de ces meurtres, as-tu vu Mrs. Blocksby ces jours-ci ?
Pourquoi ?
Il peut s'être passé des choses au village. Qu'en est-il de Fremantle, par exemple ? C'est un mari violent. Il était en mesure de glisser cette vipère dans le cou de Simon. Allons toujours voir Mrs. Blocksby.
Tu n'es pas pressée d'aller retrouver Chérie ?
Elle est dans sa famille en ce moment, dans le Devon.
Si elle habite dans le Devon, comment as-tu fait sa connaissance ?
Elle séjournait chez des amis dans le Warwickshire et je l'ai rencontrée à une réception. J'ai eu l'impression de la connaître depuis des années.
Personne ne veut de moi, pensa Agatha. Les hommes ne sont attirés que par les grosses bobonnes ou des filles avec une morphologie de phasme. Je parie que Chérie s'est fait poser des extensions capillaires. J'espère qu'elle en porte. On dit que ça rend chauve.
Tu as probablement raison. Allons voir si Mrs. Blocksby a eu vent de quelque chose.
Le pasteur leur ouvrit la porte et, à la grande surprise d'Agatha, les accueillit chaleureusement.
« Entrez, Mrs. Raisin !»
dit-il avec un sourire radieux.
« C'est toujours un plaisir de vous voir !»
Agatha ne saurait jamais que le pasteur demeurait hanté par la voix qui l'avait accusé d'arrogance. Il avait même choisi pour sujet de son dernier prêche dominical les dangers de la vanité. Il n'arrivait pas à se convaincre entièrement qu'il ne s'agissait que d'un farceur caché derrière une pierre tombale, comme le suggérait sa femme. La voix avait semblé monter de la fosse même. Mrs. Blocksby vint les rejoindre dans la salle de séjour et les entraîna au jardin, tandis que son mari regagnait son bureau. « Est-ce que vous avez appris du nouveau ?» interrogea Agatha. « Par exemple, qu'un voisin des Fremantle aurait vu Simon sous cet arbre ?»«
Non, rien, sauf que Fred Glossop est reparti. »«
Je me demande bien pourquoi il était revenu. Ils sont séparés, non ?»«
Je crois que Mrs. Glossop a été terrifiée par ces meurtres et lui a demandé de revenir. »
Où travaille-t-il ?
Dans une entreprise de l'Oxfordshire. Il est informaticien.
Pourquoi n'ont-ils jamais divorcé ?
D'après les commères du village, ils se sont séparés à l'amiable.
Je ne crois pas aux séparations à l'amiable,
intervint cyniquement Charles. Je vais peut-être retourner la voir, décida Agatha. Elle sera peut-être d'humeur plus loquace si Fred n'est pas dans les parages. Harriet Glossop était très changée physiquement. Elle avait pâli et maigri.
« Oh, c'est vous !»
constata-t-elle d'une voix sans timbre.
« Et qui est ce monsieur ?»«
C'est Sir Charles Fress, » déclara Agatha, en espérant que le titre de Charles l'impressionnerait.
« Ah, entrez, venez au jardin. »«
Vos fleurs auraient besoin d'être arrosées, »
à la vue des pétales flétris qui parsemaient la pelouse desséchée.
« Ça ne m'intéresse plus, il fait trop chaud, et Georges n'était vraiment pas cher comparé au prix que les jardiniers d'ici réclament. »
Nous nous demandions si vous ne pourriez pas nous aider, reprit Agatha. Mon collègue Simon Black était assis sous un arbre en face du cottage de Jessica Fordyce quand il a été attaqué. Auriez-vous par hasard vu ou entendu quelque chose ? Une voiture qui passait sur la route, quelque chose comme ça ?
Non. Écoutez, je ne sais rien. Et qui plus est, je ne veux rien savoir.
On a annoncé à la radio l'arrestation de ces abominables Fraser, alors pourquoi continuez-vous à fouiner ?
Parce que je ne parviens pas à croire à leur culpabilité.
Et vous pensez voir plus clair que toute la police réunie ?
J'ai l'intuition...
Oh, pitié ! Vous savez, il y a une femme qui tire les cartes à Mercer. Allez donc la voir, vous seriez sur la même longueur d'onde. La
rabroie Henriette acerbe. Eh bien, si vous refusez de nous aider...
Vraiment, je ne sais rien du tout. Et maintenant, allez-vous-en.
Il s'était rendu à pied chez Henriette. Comme il remontait la rue sans hâte, Joyce Hemingway arriva en sens inverse.
Tiens, tiens, notre grande détective, ricana-t-elle, doublée par la police.
C'est moi qui leur ai signalé la rocaille du jardin.
N'importe comment, la police a clos l'affaire.
Je ne crois pas. Et je viens juste de découvrir un élément qui pourrait bien faire rouvrir tout le dossier.
Quoi donc ? Glapit Joyce.
Agatha sourit.
Ah, vous donneriez cher pour le savoir, hein ?
On vous a entendu menacer George pour commencer.
Tu viens, Charles ?
Mais qu'est-ce qui t'a pris de dire ça ?
Demanda Charles dès qu'ils furent hors de portée de voix.
J'avais juste envie de jeter un pavé dans la mare pour voir ce qui sortira de la vase.
Je ne dispose pas des mêmes moyens que la police. Aussi, en général, je tâtonne en tous sens jusqu'à ce que quelque chose claque.
Espérons que ce ne sera pas toi.
Le lendemain matin, James Lacey, tout juste rentré de voyage, défaisait sa valise lorsqu'il fut dérangé par un coup de sonnette. Il hésita à répondre.
Les nouvelles arrivantes au village étaient promptes à discerner en lui un bon parti, et comme bon nombre d'entre elles étaient soit veuves, soit divorcées, il se voyait en permanence submergé de gâteaux et de confitures par les unes et les autres, sitôt qu'elles le savaient chez lui. Puis il s'avisa que ce pouvait être Agatha. Il avait lu les articles de journaux sur les meurtres et il avait hâte de connaître l'opinion d'Agatha au sujet de l'arrestation des Fraser. Il descendit donc ouvrir la porte et se trouva face à face avec une grande jeune femme maigre qui lui tendit la main.
« Je suis Pulcheria Harvey Booth. »«
Je ne vous connais pas, » répondit James avec impatience.
« Naturellement, je dois bientôt me fiancer avec Charles Fraisse. » »«
Entrez. »
James éprouvait soudain une certaine curiosité. Elle se percha sur le bord du canapé usé. « Ce n'était franchement pas une beauté, » jugea James, même si avec son long nez, sa longue chevelure lisse et sa bouche menue, elle évoquait un tableau médiéval. Étant donné le goût prononcé de Charles pour l'argent, elle devait avoir de la fortune.
« Et en quoi vos fiançailles me concernent-elles » s'enquit-il.
« Je veux savoir pourquoi mon futur fiancé passe autant de temps avec votre ex-femme. Voyez-vous, papa m'a recommandé d'être toujours sur mes gardes, car nous avons beaucoup d'argent. Alors il a engagé un détective privé. »
James eut un sourire sarcastique.
« Ça, c'est un rebondissement intéressant. Agatha espionnée par un détective privé.
Il semble que Charles passe souvent la nuit chez elle et qu'il dispose même d'un jeu de clés. » « Je ne veux pas épouser un homme qui a une maîtresse. »«
Je me porte garant qu'ils sont seulement bons amis. Allez voir à côté s'ils sont là. Vous serez rassurés quand vous aurez rencontré Agatha. »
Agatha, qui venait de rentrer avec Charles, vint leur ouvrir.
« Tiens, James, tu es donc revenu. Qui est-ce ? » ?»«
Ah, je sais. Charles m'a montré une photo de vous. Entrez, je vous en prie. Charles est au jardin. »
Charles se dressa sur ses pieds et contempla Pulcheria, les yeux écarquillés.
« Chérie, qu'est-ce que vous faites là ? Asseyez-vous. » »«
Je voulais savoir ce que vous, vous faisiez ici, » répondit chérie en se juchant sur le bord d'une chaise de jardin, un grand sac sur les genoux.
« Agatha est une vieille amie. »«
Vieille, c'est clair, » rétorqua chérie. « Mais ce qu'il est moins, c'est votre degré d'amitié. »«
Petite garce, sale petite garce, » marmonna Agatha.
« Vous passez la nuit chez elle. » Et quand vous lui avez annoncé notre prochain mariage, vous avez précisé que j'étais riche et vous lui avez demandé si vous alliez lui manquer.
Il eut un silence empli de stupeur. Charles fut le premier à retrouver sa voix.
C'est une conversation privée que j'ai eue avec Agatha il y a quelques instants.
Brusquement, Agatha attrapa le sac et le renversa sur la table, repoussant chérie qui essayait de l'en empêcher. Elle reconnut un appareil identique à celui de Simon.
« Vous m'avez espionné. Ce dispositif est illégal et je vais appeler la police, » clama-t-elle en sortant son portable de sa poche.
« Non, »
intervint Charles.
« J'attends des explications. »
Chérie éclata en sanglots.
« Autant que je vous le dise, » intervint James, « le papa de Pulcheria a évidemment recouru à un détective privé qui a sans aucun doute fourni cet appareil. Du moins, c'est ce qu'elle m'a dit avant que je ne vous l'amène. »
« Papa m'a conseillé de me méfier. Il a craint que vous n'en vouliez qu'à mon argent. Je vous en prie, n'appelez pas la police. »«
Quelle agence ? » exigea Agatha.
Timmons.
C'était une nouvelle agence qui lui avait récemment piqué quelques clients.
« Je me dispenserais volontiers d'un scandale, »
remarqua doucement Charles. « Il se fait tard, » trancha Agatha. « Laissez-moi l'appareil et j'irai les voir demain matin. Miss Harvey Booth, si vous ne voulez pas que je porte plainte, vous me signerez une déclaration certifiant que votre père a engagé cette agence et qu'ils vous ont remis ce matériel. Je veux aussi le nom du détective chargé de votre cas. »«
Je ne peux pas !»«
Dans ce cas, j'alerte la police et la presse. »
Charles !»
gémit Chéri. « Je regrette. Je vous suggère de faire exactement ce qu'Agatha vous dit et ensuite de rentrer chez vous et d'expliquer à votre cher papa qu'il n'est plus question de mariage. »«
Oh, c'est tous odieux !»«
Pas autant que vous, » conclut Agatha. Lorsqu'elle se rendit à l'agence Timmons à Merceuster le lendemain matin, Agatha se tourmentait au sujet de Charles. Il n'avait pas l'habitude de manifester ses émotions, mais il était resté exceptionnellement silencieux la veille au soir. Il avait attendu que Chéri ait signé sa déclaration et quitté les lieux en annonçant qu'il rentrait chez lui. James était retourné également à ses valises et quand Agatha lui avait proposé de l'accompagner chez Timmons, il avait rétorqué que toute l'affaire lui déplaisait souverainement et qu'il avait affaire. Une réceptionniste blonde et distante la pria de patienter. Mr. Timmons ne tarderait pas à la recevoir. Agatha se laissa tomber sur un canapé de cuir noir et inspecta non sans irritation la salle d'attente. Des revues luxueuses étaient disposées sur la table basse. Des toiles abstraites ornaient les parois crème. Son agence à elle ne comportait qu'une seule vaste pièce où Simon, Tony, Phil, Patrick et elle travaillaient chacun à un bureau. Celui de la secrétaire, Mrs. Friedman, était placé près de la fenêtre et les clients entraient directement. Les murs n'étaient décorés que de coupures de presse qui relataient les succès de l'équipe. « Il ne m'est jamais venu à l'idée de le réaménager », songea-t-elle. « C'est comme ma cuisine, pas de surface de granit à la mode ni de casserole de cuivre, juste les placards laqués blancs qui s'y trouvaient déjà quand elle avait acheté le cottage, ainsi qu'une table de bois carrée entourée de quatre chaises à dossier droit. » La porte du bureau s'ouvrit et un individu corpulent, de haute taille, affligé d'un crâne en forme de poire en surgit soudain.
« Mais c'est la fameuse Mrs. Raisin !» s'exclama-t-il.
Il arborait un costume croisé et des lunettes à monture invisible, derrière lesquelles ses yeux bruns rusés jaugeaient Agatha avec une méfiance qui démentait son sourire aimable.
« Que puis-je pour vous ?»
Agatha ouvrit un sac, en sortit l'appareil et le plaça sur la table. « Ceci vous appartient. On s'en est servi pour écouter illégalement mes conversations privées. »«
Absurde !»
« Je tiens une déclaration signée de Miss Harvey Booth, disant que son père vous a engagé pour m'espionner. Elle utilisait le dispositif elle-même. »«
Quel imbécile !»
s'exclama Mr. Timmons en s'épongeant le visage avec son mouchoir. « Avant que j'aille porter plainte, avez-vous quelque chose à ajouter ?»«
Chère madame, je suis sûre que nous pouvons trouver un arrangement. » »«
Vous essayez de me corrompre ?»«
Non, non, pas du tout. Je vais renvoyer le détective sur l'heure. J'ignorerai tout ceci. »«
Je suis certaine qu'il donnera une toute autre version. »
« Faites venir Baker immédiatement »
aboya-t-il à l'adresse de la réceptionniste, avant de promettre, en se tournant vers Agatha,
« Je vais le virer devant vous !»
Un homme d'un certain âge, élancé et vêtu d'un sobre complet noir, pénétra dans la pièce. Le type même de l'ancien flic songea Agatha.
« Voici Mrs. Raisin, » dit Timmons. « Vous vous êtes servi d'un appareil d'écoute illégal. Vous êtes viré !»«
Cet appareil est la propriété de l'agence ?» répondit Baker d'une voix grave et calme. « J'ai procédé conformément à vos instructions. » Il fixa longuement son interlocuteur, d'un air dur, puis il tira de sa poche un puissant magnétophone miniature et l'alluma. Il brancha un écouteur, le porta à son oreille et au bout d'un instant dit « Nous y voici !» Il débrancha l'écouteur et augmenta le volume. La voix enregistrée de Mr. Timmons résonna subitement dans la pièce.
« Baker, voilà un cas facile. Ce vieux snob de colonel Harvey Booth a une fille, dénommée Pulcheria, qui veut épouser Sir Charles Fraith et qui réclame des tuyaux sur lui. Prenez l'appareil d'écoute et récoltez tout ce que vous pourrez. »
« Ce n'est pas tout, » avertit Baker, qui fit défiler la bande sonore. On entendit cette fois ses propres inflexions.
« La fille de notre client, Pulcheria, veut essayer l'appareil elle-même. Je lui ai dit que Sir Charles Fraith fréquentait beaucoup le cottage d'Agatha Raisin ces derniers temps. » Peut-être pour s'offrir quelques parties de jambes en l'air. Et voilà qu'elle veut jouer les détectives elle-même.
« Eh bien, prêtez-lui la machine !» répondit la voix de Timmons. « La Raisin est une redoutable concurrente. Et si nous pouvons la déstabiliser un peu, ça n'en sera que mieux. Le papa de Pulcheria nous paie grassement. Mais si elle veut faire le travail elle-même, laissez-la faire !»
Baker coupa le magnétophone.
« Vous pouvez sortir !»
lui dit Immonce, avant d'implorer Agatha d'un ton lugubre.
Est-ce que je peux faire quelque chose pour que vous n'alliez pas me dénoncer ?
Une seule. Transférez votre agence dans une autre ville.
Mais ce n'est pas possible !
C'est ça ou la police. Vous avez 2 semaines pour boucler vos opérations en cours. Dans 15 jours, je reviendrai. Si je vous trouve encore ici, j'irai droit au commissariat. Il se leva en même temps qu'elle et s'approcha d'elle, la menaçant de toute sa silhouette massive.
« Vous me paierez ça un de ces jours, je vous le promets !»
Le sac d'Agatha était ouvert. Elle exhiba un magnétophone miniature, identique à celui de Baker.
« Et maintenant, j'ai un enregistrement de vos menaces. Décidément, vous faites un bien piètre détective !»
Elle rangea son appareil, referma son sac et lança gaiement « Au revoir !» Immonce, rigide, les poings serrés, la regarda partir. Agatha se rendit à son agence. Elle se sentit soudain lasse de rechercher l'assassin de Georges. Ils avaient du travail. Mrs. Friedman l'informa que chacun était parti enquêter sur divers cas et lui tendit une liste.
« Parfait, sauf pour Simon, » remarqua Agatha en l'examinant. « Il est toujours à l'hôpital ?»«
Non, il est sorti et il a téléphoné qu'il retournait à Carsley pour tenter de découvrir qui lui a mis ce serpent dans le dos.
« 1 000 000 000 de 1 000 tonnerres !» rugit Agatha. « Il va se faire tuer ! Une tentative de meurtre, ça ne lui suffit pas !»«
On ne peut qualifier cela de tentative de meurtre à proprement parler !»
rectifia Mrs. Friedman, non sans pédanterie.
« Tout le monde sait qu'en cas de morsure de vipère, il faut se rendre directement à l'hôpital. »«
Je fonce à Carsley pour le tirer de là !»«
Vous ne pensez pas que vous courez un risque vous-même ?»«
Ce n'est pas pareil. Je ne peux pas éviter le village, j'y habite !»
À y réfléchir, il ne devrait pas y avoir à se faire de soucis. L'affaire est close, n'est-ce pas ?
La porte du bureau qui claqua derrière Agatha fut la seule réponse qu'elle obtint. Simon avait pensé trouver Jessica chez elle. Il rêvait d'elle depuis leur première rencontre. Il n'avait jamais regardé Urgence, sa série attitrée, jusqu'alors, mais il venait d'acheter l'intégrale en coffret. Jessica était absente. Désemparée, il se planta devant le cottage, ne sachant que faire. Il n'ignorait pas qu'elle n'y séjournait que les week-ends, mais il avait espéré, contre toute vraisemblance, un passage éclair. Simon savait fort bien également qu'il aurait dû être à Mercester sur les traces d'un chat siamois perdu, car Agatha lui avait confié les missions de base qui leur assuraient le pain quotidien. Avant de rejoindre Carsley, il s'était présenté à la SPA de Mercester dans l'espoir de retrouver l'animal sans se donner de mal, mais on ne leur avait apporté aucun siamois. La journée était chaude et calme. L'arrosage était interdit. Dans les jardins, les fleurs dépérissaient. Simon était conscient qu'il avait déçu Agatha. Même avant l'attaque du serpent, Tony s'était montré largement meilleur que lui. Il se demandait maintenant ce qu'il avait bien pu lui trouver. Sa blondeur et sa beauté étaient complètement éclipsées par la radieuse et vibrante Jessica. Obnubilé par celle-ci, il n'avait pas très envie de quitter Carsley. Il décida d'aller boire une bière fraîche et se dirigea vers le pub, mais aperçut la voiture d'Agatha qui approchait à vive allure du village. Il s'échappa par l'autre route, regagna Mercester où il se gara sur la place principale, sortit une photo du chat et l'examina sans enthousiasme. Ce fut alors qu'il eut une illumination. Rien ne ressemblait tant à un siamois qu'un autre siamois. Or Simon était d'une famille fortunée et ne manqua jamais d'argent. Il entra dans l'animalerie la plus proche. Oui, ils avaient un superbe siamois, tout pareil à celui de la photo, une des variétés les plus rares. Il coûtait 400 livres. Simon n'hésita qu'une minute. Il alla chercher dans son véhicule la cage qu'il y entreposait pour ce type de mission, régla avec sa carte de crédit et se rendit chez une certaine Mrs. Finet qui les avait priés de retrouver son compagnon favori disparu. Agatha rentra à l'agence en nage et irritée. Tony était en train de dactylographier un rapport.
« Laissez tout tomber !» leur donna-t-elle. « Et allez voir à la SPA si on leur a apporté un châssis à moi. »«
Mais ce n'est pas Simon qui s'en occupe ?»«
Pour Dieu sait quelle raison, il est retourné à Carsley, mais je n'ai pas pu le retrouver. »«
Mrs. Finet téléphone sans arrêt !» répondit Agatha en fouillant dans le classeur.
« Elle nous a fourni des quantités de photos. Tenez, en voilà une. Et demandez à la SPA si Simon est réellement passé. »
À la SPA, on dit à Tony qu'elle tombait bien car il venait de recevoir un châssis à moi, Lilac Point. Elle le mit dans un panier et se rendit chez Mrs. Finet. Le premier son qui lui parvint aux oreilles dès que Mrs. Finet ouvrit la porte fut le miaulement plaintif et caractéristique d'un chat siamois.
« Nous avons retrouvé votre chat, » dit-elle à Mrs. Finet.
« Mais votre collègue vient juste de me le rapporter !»
s'exclama celle-ci.
« Alors celui-ci n'est pas le vôtre ?»
Mrs. Finet se pencha sur la cage.
«
Comme c'est bizarre, on dirait pourtant bien Chin-Chin.
Chin-Chin ? Une plaisanterie de mon mari, mais le nom lui est resté.
Et vous êtes sûre que vous avez le bon ?
Je sais, j'ai fait mettre une puce électronique à Chin-Chin. Entrez, nous allons vérifier.
Une fois dans la maison, Mrs. Finet palpa le cou du chat de Simon.
C'est bizarre, pas de puce, voyons le vôtre. Où l'avez-vous trouvé ?
Quelqu'un l'avait amené à la SPA.
Mrs. Finet souleva tendrement le chat que Tony avait apporté.
Celui-ci porte bien une puce, constata-t-elle. Oh, il a une petite tache noire derrière l'oreille gauche. Grand Dieu, c'est bien Chin-Chin. Qu'est-ce que je vais faire de l'autre ?
Cela vous ennuierait-il de le garder pour le moment ? Il faut que je sache d'où il vient.
Tony médita un moment devant la maison. Simon était riche et détestait être affecté à la chasse aux animaux perdus. Elle prit la direction de l'animalerie de Merceuster et, avant d'entrer, sélectionna dans son appareil photo un portrait de groupe des détectives de l'agence. Elle la montra au vendeur en lui désignant Simon.
« Est-il venu récemment acheter un chat ?»«
Oui, il a acheté un siamois, Lilac Point, une très belle bête. »«
Merci, c'est tout ce que je voulais savoir. »«
Il y a un problème ?»«
Non, non, tout va bien. »
Elle retourna chez Mrs. Finet.
« Cela vous ennuierait-il de conserver définitivement le chat supplémentaire ?»
s'enquit-elle.
« La SPA est toujours heureuse de placer ses pensionnaires dans des familles aimantes. »«
J'en serais ravie, mais c'est un animal très coûteux. Peut-être devrais-je leur payer quelque chose ?»«
Oh non, pas du tout. Ils se réjouiront de le savoir entre de bonnes mains. »
Mrs. Finet se confondit en remerciements et Tony rentra à l'agence.
« Alors ?» s'informa Agatha. « Simon l'a retrouvé et rendu à sa propriétaire. »
Dieu merci.
Simon entra.
Je suis contente que vous ayez retrouvé le chat, déclara Agatha. Mais il y a encore du travail ici. Ne filez plus à Carsley sans m'en parler. Je vous trouverai une autre affaire demain matin.
Parfait. Je pars aussi, dit Tony.
Attends-moi, Simon.
Un moment, déclara Tony à Simon.
Qu'est-ce qui t'a pris d'aller acheter un chat aussi cher? J'ai trouvé le vrai et je l'ai rapporté.
Oh!
Catastrophe, Agatha va être furieuse.
Je ne lui ai rien dit. On venait de le confier à la SPA. J'ai proposé à Mrs. Finet de garder le tien aussi. Mais à quoi diable joues-tu ?
Viens boire un verre et je te raconterai.